Bonjour, ravi de vous retrouver dans Grand Bien vous fasse. J'aurais aimé détenir le génie de Georges Perec, entré dans la bibliothèque de la Pléiade, pour écrire un ouvrage à la manière de Je me souviens, à la mémoire de mes chers grands-parents maternels. En attendant de grappiller un jour le quart du tiers de la moitié du génie de Georges Perec, je vous propose une nouvelle émission consacrée aux grands-parents. Que transmettent les grands-parents en 2017, au-delà du rôle de gardien de la tradition, de transmetteur de la mémoire et des valeurs familiales, nous verrons qu'ils sont également des vecteurs de modernité, portrait en forme de kaléidoscope des grands-parents de notre époque ce matin. Et vous, que transmettez-vous à vos petits-enfants et que vous ont transmis vos propres grands-parents? N'hésitez pas à témoigner et à poser vos questions par courriel grandbienvousfasse@radiofrance.com, sur notre page Facebook et au standard de France Inter 01 45 24 7000. Clarisse et Josué attendent vos coups de fil.
France Inter, Grand Bien vous fasse, Ali Rébéi.
Ah non, non, un alibi ne compte pas sur moi.
T'as de ces mots.
Bon, allez, entre. Allez, je vais te préparer à goûter. Premièrement, ne jamais s'avouer vaincu.
Jamais rien avoué d'ailleurs. Tu as perdu une bataille, tu connais la suite.
Quelle suite?
Eh ben, t'as pas perdu la guerre. Deuxièmement, ne mentir que si on est certain de ne pas se faire piquer. Troisièmement, il faut un élément nouveau.
Attends, je comprends pas, là.
N'importe quoi, c'est plus une bouse. C'est un anniversaire, c'est plus 8h, c'est 7h30, c'est plus... Comment s'appelle-t-il?
Raoul.
Eh ben, c'est plus Raoul, c'est Bernard. N'importe quoi, du moment que tu leur permets de changer d'avis sans avoir l'air d'imbécile.
Ah, ouais, je vois ce que tu veux dire.
Et le plus important de tout, le moment. Tu joues ta vie sans arrêt sur un moment. Tu sais jouer au baccarat?
Non.
Je t'apprendrai.
Un extrait de La Boum de Claude Pinoteau avec Sophie Marceau et Denise Gray. En 1980 comme en 2017, grands-parents et petits-enfants partagent bien des secrets. Bonjour Patrick Avran.
Bonjour.
Vous êtes psychanalyste, écrivain, membre de la Société de psychanalyse freudienne et vous publiez au PUF Les grands-parents, une affaire de famille. Bonjour Serge Guérin.
Bonjour.
Sociologue, expert éclairé de l'émission, spécialiste des questions liées au vieillissement de la société et aux enjeux de l'intergénération, vous avez publié avec Pierre-Henri Tavoyot « La guerre des générations aura-t-elle lieu chez Calman Levy ?» et vous chroniquez chaque mois dans le mensuel Notre Temps. Patrick Avran, les grands-parents de notre époque sont coincés entre deux images, celle du vénérable papy ou de la respectable mamie, et puis l'image des grands-parents hyperactifs.
Et en même temps, ils sont quand même beaucoup plus du côté des grands-parents présents. Parce que ce qui est de nouveau dans notre époque, c'est que les grands-parents commencent à l'être en général à 54 ou 57 ans, c'est-à-dire qu'en pleine force de l'âge, tandis que les grands-parents de Balzac, c'était des vieillards dont on allait bientôt fleurir leur tombe. Et il y a aujourd'hui quelque chose qui est quand même une première... c'est cette présence des grands-parents dans la vie et dans la vie active de leur famille.
Serge Guérin, les grands-parents ne sont pas seulement les gardiens de la tradition, ils sont également plongés dans la vie de leurs petits-enfants, dans la vie active.
En fait, c'est peut-être la grande différence avec une ou deux générations précédentes, c'est que les grands-parents sont des transmetteurs, mais dans les deux sens. Et en plus, c'est des leviers de la réciprocité, parce qu'ils apportent, évidemment, aux plus jeunes, ils apportent déjà leur présence, et puis témoignent d'un temps ancien, mais en même temps, ils sont aussi demandeurs auprès des petits-enfants, d'informations ou de règles ou d'outils pour comprendre le monde d'aujourd'hui. Ils l'acceptent, ils le disent. Alors qu'auparavant, jamais d'une certaine manière, un ancien aurait demandé à un petit jeune « mais explique-moi ce qui se passe ». Là, il n'y a aucun problème. J'ai envie, avec mamie, de faire notre premier voyage en Australie. Toi, tu y es allé il y a quelques années, raconte-nous. Il y a 20 ans, c'était impossible. Déjà, ça ne se serait pas fait, tout simplement. Ni les petits-enfants, ni les grands-parents. Donc du coup, il y a une relation nouvelle, qui est une relation beaucoup plus d'écoute et de réciprocité entre les deux générations.
Alors Patrick Avran, dans la tradition psychanalytique, en dehors de leur fonction ancestrale, les grands-parents occupent finalement une place assez négligeable. Et le psychanalyste que vous êtes ne peut pas ignorer les grands-parents de vos patients.
La psychanalyse, c'est une affaire qui date de la fin... du 19e, du début du 20e siècle, c'est-à-dire une époque où les grands-parents n'étaient absolument pas présents. Les cas de Freud, dont il nous parle, les grands-parents sont pas là tout simplement parce qu'en règle habituelle, ils sont décédés ou s'ils ne le sont pas, ils sont hors d'atteinte, ce qui n'est plus le cas aujourd'hui. C'est-à-dire qu'effectivement, en ce qui concerne la clinique actuelle, les grands-parents, ils ne sont pas simplement des images contre lesquelles on se bat, c'est-à-dire ils ne sont pas simplement du côté du fantasme, ils sont tout à fait présents, et présents dans le quotidien, et effectivement, avec ce qu'on vient de dire, dans cette réciprocité. C'est-à-dire qu'à la fois, ils sont là en même temps pour transmettre, mais aussi, ils ne peuvent transmettre qu'à partir du moment où ils acceptent d'apprendre, et ils apprennent beaucoup de leurs petits-enfants.
Alors, ce qui change à notre époque, Patrick Cavran, c'est l'apparition des nouveaux grands-parents. Ces nouveaux grands-parents, ce sont les aïeux issus des familles recomposées.
Les nouveaux grands-parents, au sens de... ce ne sont pas les grands-parents de naissance, comme on dit.
Légitimes, entre guillemets.
Oui, mais ils sont tout aussi légitimes. Mmh. Justement, c'est là où il y a une distinction. C'est-à-dire que les grands-parents, ils sont légitimes, même s'ils ne sont pas les parents de naissance des enfants dont ils s'occupent. Ce que l'on voit, je pense que les sociologues le remarquent aussi, c'est qu'en général, c'est du côté de la lignée maternelle que ça se passe.
Pourquoi ?
Alors, en ce qui concerne les psychanalystes, ils pourront vous expliquer qu'il y a quelque chose d'une transmission de mère à fille qui est un peu plus irrémédiable, un peu plus forte qu'une transmission de père à fils ou de père à fille. C'est-à-dire que la transmission de mère à fille, elle est inscrite, comme on dit, dans l'archaïque. Et en règle habituelle, effectivement, c'est toujours du côté de la lignée maternelle que ça se passe. Tout simplement, une femme qui accouche pour la première fois, à qui elle demande ? Elle demande à sa mère. Hein. Elle ne va pas demander à sa belle-mère, au contraire.
Serge Guérin, qui n'arrête pas de tweeter pendant l'émission, ses grands-parents recomposés, ce sont des vecteurs de modernité. Ils réinventent un nouveau rôle ?
Oui, parce qu'eux-mêmes, en fin de compte, ils ont dû inventer leur propre nouvelle vie. Ils n'avaient pas prévu de vivre aussi longtemps, ils n'avaient pas prévu nécessairement d'avoir autant d'évolution, ils n'avaient pas prévu non plus comment la société évoluerait. Donc du coup, ils se cherchent eux-mêmes, ils sont très en lien avec la société, ce sont des contemporains. Ce n'est pas des gens sur le côté. Vous savez, avant on disait être en retraite, c'est être en retrait. Mais plus du tout, aujourd'hui ce sont des gens qui sont des acteurs. D'abord, ils ne seraient pas là, le tissu associatif s'écroule. Donc c'est des gens qui sont très très au fait des questions sociales, des questions culturelles et autres. Et donc, ils vont aussi en discuter, parfois ils vont prendre aussi le temps d'échanger avec leurs propres petits-enfants ou avec d'autres petits-enfants de cœur, comme dirait notre nouveau président. C'est-à-dire que c'est pas parce que j'ai pas un lien de sang ou un lien biologique direct que j'ai pas des relations avec ces personnes-là. Et puis c'est vrai que les femmes, pas par essence, mais en tout cas par culture et par relation et par fait, transmettent un certain nombre de choses que ne peuvent moins bien transmettre des hommes. Donc il y a aussi cette relation extrêmement forte sur comment on va inventer ensemble, imaginer ensemble et se préparer ensemble à cette nouvelle vie.
Quelle est la modernité des grands-parents des années 2010, au fond, Patrick Cavran ?
La modernité des grands-parents des années 2010, je pense que c'est dans l'interaction justement avec leurs petits-enfants. Un jour, un de mes petits-fils m'a demandé comment tu faisais quand tu étais petit, quand il n'y avait pas Google. Je lui explique que quand j'étais petit, il n'y avait même pas et encore à peine la télévision. Et parfois, le téléphone, il fallait attendre 5 ans avant de l'avoir. Et en même temps, ce que je sais, c'est que si j'ai quelque chose à lui demander, qu'est-ce que c'est qu'un réseau social, maintenant je sais, ou même avant comment on fait pour quand je n'arrive pas à me débrouiller avec mon iPhone, c'est à lui que je demande. Et c'est dans cette interaction, c'est-à-dire qu'en même temps je lui montre, je lui explique ce qu'était la vie quand j'avais son âge, et ça lui permet de comprendre quelle est la sienne aujourd'hui. Et c'est ça, il me semble, la modernité des grands-parents des années 2010.
Serge Guérin.
C'est vraiment ça, c'est-à-dire que je comprends le monde, j'essaie de le comprendre, j'essaie aussi de me dire quelle est ma place et quelle va être la place de mes descendants, les miens, mais aussi d'autres. Et donc du coup, je n'ai pas envie de laisser le monde comme il est. Je me sens responsable. Il y a des gens qui pensent « Ah, parce que les gens sont âgés, ils se fichent de l'avenir ». Mais pas du tout. D'abord, des gens qui ont 70 ans, ils ont devant eux 20 ans. Donc ils sont eux-mêmes directement inscrits dans l'avenir. Et en plus, cette notion de transmission qui est absolument essentielle. Encore une fois, s'il n'y a pas de transmission, il y a barbarie. Si une société n'est pas capable de se dire « Après moi, ce n'est pas le déluge, mais c'est d'autres personnes, mes enfants, mes petits-enfants et d'autres ». Et du coup, comme il y a cette conscience extrêmement forte qui est aussi la manière de se perpétuer. J'ai envie de m'intéresser à mes petits-enfants parce qu'ils seront là après moi et ils me permettront d'être toujours là. Donc c'est à la fois de l'égoïsme naturel et en même temps un sentiment très fort de solidarité, je dirais d'intergénération solidaire.
Bonjour Muriel.
Bonjour.
Bienvenue dans Grand Bien Vous Fasse. D'où appelez-vous ?
Alors j'appelle de Nord-Charente, de Tézézy.
Bon, alors racontez-nous votre rapport avec vos grands-parents.
Oh, que du bien. J'ai eu la chance d'être la dernière des petites filles, donc j'étais toujours dans leurs jupons, dans leurs pantalons. Et j'ai eu la chance d'avoir un grand-père très bon, très dans l'humour, dans le respect, dans l'humain. Donc il m'a apporté des choses comme ça.
Ça se traduisait comment, cette transmission avec votre grand-père ?
Alors, une vision de la vie dans le bonheur. Ils n'avaient pas grand-chose, ils n'étaient pas très riches. Ils avaient vécu la guerre, lui, il avait été résistant. Donc, il m'a appris à voir les choses, les petits bonheurs de la vie. Apprendre à respecter les gens, la différence, et c'était que du plus. Du plus pour moi.
Alors, à titre personnel, je partage un point commun avec le rapport que vous avez entretenu avec votre grand-mère maternelle.
Oui, ma grand-mère, oui, c'est la cuisine.
La cuisine.
Ah là là, oui. Le bonheur de la pâte qui lève, le chocolat dedans, la pâte, la cuisine. J'ai toute cette base et c'est que du bonheur encore avec les amis parce que je fais cette cuisine. Je me rappelle de ma grand-mère faire les mêmes gestes.
Vous faites les mêmes gestes? Vous accomplissez les mêmes gestes?
Exactement. Ouais. Exactement. J'ai aucun robot à la maison, je fais tout à la main. Ouais. Je ne me verrai pas prendre un robot pour faire de la pâte, pour faire de la cuisine. Je fais tout à la main comme ma grand-mère le faisait.
Vous avez une recette en particulier
sur le chocolat surtout.
Notre fromager. Notre fromager, c'est un gâteau typique de Charente avec du fromage frais. Et je fais la pâte comme faisait ma grand-mère, le gâteau comme ma grand-mère le faisait, avec la petite pointe de cognac. Et voilà.
Serge Guérin, ça fait un peu cliché, hein, cette transmission de la cuisine à travers les grands-parents, mais c'est fondamental, c'est essentiel.
Absolument. D'abord, il y a la question du plaisir. Tout simplement, on fait plaisir ensemble. La cuisine, la nourriture, c'est aussi la convivialité. Manger avec d'autres, déjeuner avec d'autres, échanger avec d'autres, partager du chocolat avec d'autres, c'est quand même essentiel. Donc ça, c'est pas du tout un cliché, c'est une réalité. Puis deuxième élément, c'est cette notion de transmission. Cette jeune personne disait « mon grand-père résistant » et tout ça. C'est-à-dire, je transmets aussi à travers la cuisine, je transmets des recettes, mais je transmets aussi une attention. Par exemple, une attention aux aliments, une attention à ne pas gâcher. Donc, en fin de compte, un mode de vie derrière la cuisine, derrière l'alimentation, c'est la différence et le style de vie.
Le regard du psychanalyste Patrick Avran sur ce que vient de nous dire Muriel.
Oui, tout à fait. Ce que je pense, c'est que les grands-parents, ils transmettent la petite histoire, c'est-à-dire les gestes de la famille. On n'est pas obligé d'avoir des biens à transmettre. On transmet une façon de faire des gâteaux et en même temps, on transmet la grande histoire. Parce que d'avoir un grand-père qui a été résistant, ça permet beaucoup mieux de comprendre ce qu'était l'histoire, la vraie, la grande, que de le lire dans des livres. Il y a quelque chose de la transmission, on pourrait dire, matérielle qui se fait. Hein. Ça se passe comme on passe des recettes, et en passant la recette, on passe les goûts. Et en passant les goûts, on passe le plaisir partagé de la vie.
Muriel, promettez-moi de nous envoyer la recette du gâteau de votre grand-mère. Appelez-nous le nom.
Alors, c'est le fromager.
Bon, ben on attend la recette. Merci beaucoup.
Avec grand plaisir.
Merci beaucoup, Muriel.
Merci à vous. Hein.
Bonjour Thomas Chauvineau. Vous avez peut-être une recette à nous transmettre?
Ah ben, de ma grand-mère, si vous voulez, elle lit la tarte au maroilles.
Ah oui.
Parce que ma grand-mère vient du Nord. Alors, on n'est pas tout à fait, avec du fromage, mais un peu plus fort. Hein. Mais c'est elle qui me l'a appris. Je me souviens de ma première tarte au maroilles. Je lui ai téléphoné pour me dire, mamie, comment tu fais ta fameuse tarte au maroilles? Et elle m'a donné sa recette au téléphone et je l'ai refaite en moins bien, évidemment, parce qu'on n'y arrive
pas. Il
n'y
a pas le même goût. Hein. Non, moi, quand j'essaie de faire les beignets de ma grand-mère, c'est pas tout à fait pareil. Alors, Thomas Chauvineau, reporter de l'émission, vous avez suivi deux grands-mères, on écoutera votre reportage tout à l'heure, Annie et Martine.
Exactement. Et puisqu'on parlait des nouveaux grands-parents, ce qui est assez drôle, c'est que Till, leur petit-fils, a huit grands-parents, quatre grands-mères, oui. Hein, puisque les grands-parents se sont séparés et des couples ont formé, se sont reformés, et donc du coup, ils se retrouvent avec lui, huit grands-parents.
Allez, on écoutera ça tout à l'heure. Thomas Chauvineau, Grand Bien Vous Fasse est préparé par Laure Grand-Besançon et Lorraine Bess avec l'aide de Clara Marliot, et c'est réalisé par Claire Destacan.
Je sais. I love you. Y'a de la rumba dans l'air, le smoking de travers. Je te suis pas dans cette galère, ta vie tu peux pas la refaire. Tu cherches des morceaux d'hier, pépère, dans des gravats d'avant-guerre. Casino, c'est qu'un tas de pierres. la vie, tu peux pas la refaire. Branche un peu tes écouteurs par ici, la mer est déjà repartie. Le vieux casino démoli, c'est fini. Y'a de la rumba dans l'air, le smoking de travers, je te suis pas dans cette galère, ta vie tu peux pas la refaire, tu cherches des morceaux d'hier, pépère, dans des gravats d'avant-guerre, le casino c'est qu'un tas de pierres, ta vie tu pas la refaire. Fermez les yeux des grandes fibres marines, tout à languie pour nuit de Chine, sur les banquettes de Moleskine, des limousines. Écoutez l'histoire entre Trouville et Dinard, d'allons baiser fini, c'est trop tard. Les mains sur le satin, caresse du matin au chagrin. Y'a de la rumba dans l'air, le smoking travers, je te suis pas dans cette galère, ta vie tu peux pas la refaire.
L'excellente version de Philippe Catherine de Y a de la rumba dans l'air.
France Inter. Grand bien vous fasse.
10h24, que transmettent les grands-parents de notre époque? Question posée à nos invités, le psychanalyste Patrick Avran et le sociologue Serge Guérin. Question que je vous pose également au 01 45 24 7000. Alors, Patrick Avran, j'aimerais que nous nous arrêtions sur l'une des fonctions essentielles des grands-parents, du point de vue en tout cas de la transmission, c'est de témoigner d'un passé vécu dont leurs petits-enfants sont porteurs.
Oui, ils témoignent du passé vécu. Parce que quand ils ont vécu quelque chose, ils l'ont pas fait dans les livres. Et les petits-enfants apprennent, mais pas simplement apprennent, découvrent avec eux ce qu'était la vie avant. Mes petits-enfants, un jour, celui qui me demandait comment tu faisais quand tu étais petit, il y avait Google. Alors j'étais beaucoup plus loin, je lui ai même raconté qu'un de mes premiers souvenirs d'enfance, c'était le marchand de glace, mais pas de glace de glace, parce qu'à l'époque, il n'y avait pas de réfrigérateur. Il y avait encore les marchands de glace qui passaient avec des pains de glace qu'on mettait dans les glacières. À ce moment-là, il m'a demandé, est-ce qu'il y avait des dinosaures dans la rue? Je lui ai dit non, il n'y avait pas de dinosaures, il y avait quand même des tractions avant. Et à ce moment-là, on est parti sur qu'est-ce que c'est que le changement. Hein? C'est-à-dire qu'aujourd'hui, tout ça, pour lui, c'est à la fois du passé, mais c'est en même temps du présent, puisque je peux lui raconter que je l'ai vécu, et puis qu'il me trouve pas particulièrement antédiluvien.
Alors, Patrick Avran, qu'avez-vous reçu en héritage de vos quatre grands-parents? Quelles histoires vous ont-ils transmis? Je pense à votre grand-mère, dont vous avez reçu le regret de ne pas avoir suivi sa religion.
C'est religion juive, chacun sa propre histoire. Moi, je suis né juste après la guerre parce que je pouvais pas naître avant. Je pouvais pas naître avant parce que j'ai deux grands-parents qui étaient en France depuis déjà pas mal de temps. C'était mon grand-père, le premier, qui est venu de Transylvanie et qui était venu pour fuir les pogroms. Et deux autres grands-parents qui étaient un autre genre d'émigrés. Il y en a une qui venait de Bretagne et l'autre d'Anjou. Et mes parents se sont connus pendant la guerre et les parents, leurs parents goy, ont caché... les biens de mes parents juifs. Et tout ça, ça fait une histoire. On n'en a jamais parlé plus. Ça fait partie de mon histoire. Et je pense qu'en tout cas, ce que tout ça, ça m'a donné, c'est quand même une certaine relativité par rapport aux guerres et notamment par rapport aux histoires de racisme, etc. Je veux dire, il y a quelque chose... C'est pas pareil quand on l'a vécu comme ça. Hein. Et c'est ça, je pense, que m'ont donné... Alors évidemment, quand on est fils d'un père... qui était juif et qui a épousé une goye, quand même, comme ça se transmet par les femmes, la religion juive, le rêve de ma grand-mère juive, ça aurait été que je rattrape la faute de mon père. Et quand j'étais jeune, j'avais une petite cousine un peu éloignée, avec qui je m'entendais un peu bien, et je sentais que ma grand-mère paternelle, elle aurait bien aimé. Mais bon, finalement, j'ai pas fait. Et ça s'est quand même continué comme ça, c'est-à-dire...
Et Patrick Avran, l'un de vos grands-pères, vous a transmis à la fois ses outils et un goût pour le travail manuel, mais aussi un goût de la réussite par soi-même et du désir d'indépendance. Tout ça est lié.
Tout ça est lié parce que ce grand-père-là, c'est mon grand-père maternel, c'était quelqu'un qui venait de vraiment d'une région très pauvre. Ses parents étaient très pauvres, de paysans d'Anjou, et lui-même avait été placé dans sa jeunesse chez des sœurs. Enfin, c'est quelqu'un qui a toujours voulu se sortir lui-même. Il n'avait pas véritablement de soutien. Et ce que j'ai appris de lui, c'est comment, à certains moments, c'était important de compter sur soi-même et de ne pas nécessairement attendre que les choses arrivent toutes cuites, pourrait dire, comme ça.
Et vous, Serge Guérin, je rappelle que vous êtes sociologue, que vous ont transmis vos grands-parents, si vous avez eu la chance de les connaître ?
Alors, j'ai eu la chance d'en connaître 3 sur 4, et le hasard de la vie fait que j'ai une histoire qui n'est pas si éloignée que ça de la vôtre. Et est-ce que ma mère est née en 40 ? Juive apatride, ce n'est pas la meilleure manière d'arriver. Ils ont été cachés par des gens, les Martins, et puis ils ont été dénoncés par d'autres et tout ça. Et du coup, ce que vous apprenez, c'est les bons et les méchants. Faut faire très attention, quoi. On peut, voilà. Et donc, vous apprenez au minimum la tolérance. Et puis de l'autre côté, c'était une famille. Ma grand-mère paternelle était d'origine italienne, et là, vous apprenez la pauvreté et comment on s'en sort. Et puis mon grand-père était né à Bray, et vous apprenez comment, en fin de compte, on n'a pas beaucoup de diplômes et on peut construire une vie en travaillant. Donc voilà, donc vous apprenez finalement plein de choses. Et puis, ce qui est très très intéressant, c'est que vous apprenez en effet une attitude, une manière d'être. Et ce qu'on apprend le plus, c'est est-ce que les personnes plus âgées que vous, est-ce qu'elles ont été bienveillantes ou pas ? Et elles ont été bienveillantes. Et du coup, sans doute que quand on est dans un univers de bienveillance, on reproduit des formes de bienveillance vers ses propres enfants, et puis après, sans doute, petits-enfants. Et je crois que c'est vraiment ça. C'est aussi donc transmettre, vous disiez tout à l'heure, je crois que nous, dans le bouquin d'ailleurs, on en parlait, moi je milite beaucoup pour que dans les écoles viennent des gens âgés qui parfois n'ont pas à raconter une vie héroïque. C'est pas ça l'enjeu, c'est simplement raconter la vie d'avant, dire que quand j'étais enfant, les toilettes étaient au bout du couloir. Quand j'étais enfant, on travaillait à 14 ans et on ne se sentait pas Zola, on se sentait pas atroce et ainsi de suite. Et juste pour permettre aussi à des enfants d'aujourd'hui de relativiser, de se rendre compte que globalement, leur vie est beaucoup plus facile, beaucoup plus confortable qu'il y a simplement 50 ans. Je ne parle pas d'il y a 100 ans. Avoir 20 ans en 1917, évidemment, c'est sacrément autre chose qu'avoir 20 ans en 2017. Mais racontez simplement les petites choses. On a besoin de ça pour toucher. En fin de compte, les vieux, nos vieux, nos grands-parents, nos mamies, nos papilles, on les appellera comme on voudra, ils nous permettent de toucher du doigt, de toucher de la chair, de toucher de la sève. Ce que c'est que l'histoire, ce que c'est que avant. Et donc, plutôt qu'être... Bien sûr qu'on a besoin des livres, mais pourquoi revenir toujours à la préhistoire ? On a besoin aussi de savoir simplement comment c'était il y a simplement 50 ans. Parce qu'on est aussi issus des 50 ans. On est plus issus des 50 ans derrière nous que de la préhistoire.
Thomas Chauvineau, que vous ont transmis vos grands-parents ?
À part la recette de la tarte au maroilles, vous voulez dire, c'est assez compliqué. Je pense... l'idée de la famille, finalement. Enfin, on se retrouvait, moi j'ai souvenir de mes grands-parents qui organisaient toujours des banquets énormes dans les Deux-Sèvres ou dans la Vienne où ils sont originaires, pour une partie d'entre eux. Et il y avait cette idée de réunir l'ensemble de la famille, c'est-à-dire ça allait au-delà de juste des grands-parents. C'était les piliers, quoi. Maintenant que mon grand-père n'est plus là, ces réunions de famille n'existent plus et on se retrouve plus. Donc voilà, c'était, je rencontrais des cousins, des petits-cousins, des arrière-cousins, des tantes germaines dont j'ignorais absolument tout, que je voyais peut-être qu'une fois par an. enfants, mais c'était ça, la construction de la famille.
Serge Guérin, comment se transmettent les valeurs, les traditions, les rituels dans une société qui vit plus que jamais dans l'instantanéité, l'individu contemporain qui a parfois du mal à accueillir ce qui n'est pas du ressort de sa propre expérience, la transmission qui peut être vécue comme une entrave à sa liberté?
Oui, d'ailleurs, il y a eu un temps où il y a eu même un déni de la transmission et un déni de l'ancien. C'était cours camarade, le vieux monde est derrière toi, quoi. On doit éloigner tout ça. Il y a eu, on va dire, un peu un mythe 68-art, un mythe de la modernité, un mythe de la technologie aussi. Tout ce qui est intéressant est neuf. Tout ce qui est neuf est intéressant. Le reste, on veut même pas le savoir. Aujourd'hui, on voit bien qu'il y a un besoin aussi, à la fois de cette modernité, bien sûr, mais il y a aussi un besoin de cette transmission et de se dire, il y a eu des choses et j'ai même besoin de m'appuyer. Regardez tous les éléments autour du service militaire. Tout le fait qu'un certain nombre de candidats ont dit qu'il faudrait peut-être remettre d'une manière ou d'une autre. Le président Macron est plutôt sur l'idée d'un mois, par exemple. Enfin, il y a plein de choses. Mais c'est quoi? C'est pas la question du service militaire, c'est la question de qu'est-ce qu'on trouve comme rite commun. En fait, on a tous besoin d'avoir des rites communs parce que c'est ça aussi qui fait notre destin commun. Donc ça peut être une sorte de service civique, de service militaire, mais ça peut être d'autres choses, des moments. Pourquoi des gens se disent, pourquoi on s'habille pas de la même manière quand on rentre à l'école, par exemple? On a besoin de retrouver quelque chose qui nous donne du commun. Et ça peut être dans une pratique solidaire, dans une pratique associative, une pratique de faire des choses ensemble ou d'avoir des rituels plus symboliques.
Patrick Avran, à propos de la transmission, vous écrivez la chose suivante. Pour transmettre un héritage, c'est sans doute moins le don qui importe que la capacité de celui qui le reçoit de pouvoir le léguer à son tour.
Oui, c'est s'inscrire dans la transmission. En vous écoutant, d'un seul coup, je me suis dit qu'effectivement, ce qu'on voit, les pays les plus totalitaires, je pense, ce qui s'est passé au Cambodge, ça commence par ça. Ça commence par rayer
l'histoire
de famille. C'est-à-dire, là où on n'a plus le droit d'avoir de parents et de grands-parents, c'est là où commence le totalitarisme. Et la transmission, c'est pouvoir penser en même temps que celui à qui l'on transmet, il le transmettra à son tour. C'est tout simplement s'instaurer dans une continuité.
Grand-père?
Oui?
Je commence à avoir un peu peur pour demain.
Oh, tu te moques de moi, tu vas carrément les assommer, ils vont pas comprendre ce qui leur arrive.
Grand-père?
Ouais?
Est-ce que tu me trouves jolie?
Olive, tu es indiscutablement la plus jolie fille du monde. Moi, je suis fou amoureux de toi. Pas à cause de ton esprit ou de ta personnalité, mais parce que tu es vraiment belle, dedans et dehors.
Grand-père.
Quoi?
Je veux pas faire partie des losers. Papa déteste les losers.
Voilà, non, doucement, reprends-toi. Tu sais ce que c'est un loser? Un vrai loser, c'est quelqu'un qui a tellement peur de ne pas gagner qu'il ne veut même pas essayer. Toi, tu essayes, il me semble.
Oui.
Donc, t'es une gagnante, hein?
Oui.
Elles peuvent toutes aller se rhabiller. Bonne nuit, mon ange. Je t'aime.
Alors, dans cet extrait du film Little Miss Sunshine de Jonathan Dayton et Valérie Faris, le grand-père d'Olive transmet de la bienveillance à sa petite-fille, de la bienveillance et du courage. C'est l'une des fonctions des grands-parents, Patrick Avran. Il me semble que les grands-parents ont une fonction d'apaisement.
Ils ont une fonction d'apaisement, ils ont aussi une place particulière en ce qui concerne les relations familiales. C'est-à-dire que parfois dans les fratries, un frère, une sœur peuvent avoir des mots, peuvent éventuellement se disputer. Mais ce qui se passe chez les grands-parents, c'est que leurs petits-enfants sont là pour ne pas épouser les querelles de leurs parents. Et une des fonctions des grands-parents, c'est aussi cela. Tout à l'heure, on parlait des cousinades. Et ben, c'est faire que les cousins, au fond, ils sont ce qu'ils sont. Et ils ne sont pas simplement des enfants qui sont à suivre les combats qu'il y a eu éventuellement entre leurs parents. Et il y a quelque chose du côté de l'apaisement qui se passe grâce aux grands-parents.
Serge Guérin.
Je crois que les grands-parents peuvent dire le bien, mais ne jugent pas.
Nous attendons, c'était très...
Ah bah dis court,
ah,
je bah fais
oui,
court.
C'est formidable. Nous attendons vos questions et témoignages par courriel. Grand bien vous fasse à radiofrance.com et au standard de France Inter 01 45 24 7000. A tenement, a dirty street, walked and worn by shoeless feet, in silence long and so complete, watched by a shivering sun. Old eyes in a small child's face, watching as the shadows race through walls and cracks and leave no trace, and daylight's brightness shone. The days of Pearlie Spencer.
close friend. Nose pressed hard in frosted glass, gazing at the swollen mass on concrete fields where grows no grass, stumbles blindly on. Iron trees smother the air, but withering they stand and stare through eyes that neither know nor care where the grass is gone. Today the pearly Spencer, the race is almost run. Pearly, where's your milk-white skin? What's that stubble on your chin? Buried in the rot-gut gin, you played and lost, not won. You play the house that can't be beat. Now look, your head's bowed in defeat. You walk too far along the street where only rats can run. The days of Pearly Spencer, the race is almost run. The days of Pearly Spencer, the race is almost run.
David McWilliams en 1967, ça me rappelle plein de souvenirs ça, Patrick Avran, non?
Oui. Nostalgie.
Grand bien vous fasse. Sur France Inter.
10h38, que transmettent les grands-parents de notre époque? Question posée à nos invités, le psychanalyste Patrick Avran et au sociologue Serge Guérin. Question que je vous pose également au 01 45 24 7000. Thomas Chauvineau, vous avez donc rencontré deux grands-mères très actives.
Deux mamies avec qui je suis allé chercher Till à l'école, petit garçon qui est en première année de maternelle. Mamie Martine et mamie Annie, alors toutes les deux sont à la retraite, autour des 70 ans. L'une vit plutôt loin, l'autre assez près, donc s'en occupe assez souvent. Mais Till, je le disais tout à l'heure quand on parlait des nouveaux grands-parents, au total, avec ces histoires de familles recomposées, finalement, quatre couples de grands-parents, ce qui fait huit grands-parents au total, huit grands-parents en quelque sorte. Et là, on ne parle plus de lien du sang, mais plutôt de lien du cœur.
Au revoir, Till. À demain.
Alors, t'es content? Regarde, t'as tes deux grands-mères d'un seul coup.
Les deux en plus.
Tu dis oui, mamie.
Oui, mamie.
Mon cœur. Tiens, allez. Je pense que les grands-parents sont de moins en moins disponibles, en fait. Enfin, les grands-parents qui
ils peuvent, habitent plus.
Ils travaillent encore. Ils travaillent encore, quoi.
Ils habitent très loin.
Ou ils habitent très loin, à la campagne. Nous, c'est exceptionnel.
Mamie, t'as pas de cabane.
T'as pas de cabane chez toi? Bon, ça, c'est pas normal.
Il faut une cabane chez les mamies, dans le jardin des mamies.
Ah, oui, mais voilà. Le jardin, il est pas là. Il est plus loin, le jardin.
Bonsoir, madame.
Till, qu'est-ce que tu veux comme petit pain? Viens voir. Un goûter d'abord.
Non, pas de goûter.
Eh bien, alors pas de bonbons.
Mais ils partent pas, ils sont.
Et dis-moi, Till, maintenant que tes grand-mères, elles sont à la boulangerie, tu me dis un secret? Tu préfères quelle grand-mère?
Mamie Annie, mamie Martine.
Ah, les deux? Les deux qui sont là ce soir. C'est bien, bonne réponse.
Hop. Allez, saute. Hop. Allez, hop.
Il faut la même patience quand on est mamie que quand on est maman?
Non.
Il a répondu non.
On a plus de patience parce qu'on a plus de temps. Faut pas non plus accepter tout, quoi.
Donc, mais on accepte plus.
On accepte plus, on est plus disponible.
Non, maman.
J'étais plus sévère quand j'étais mère, bien sûr.
Et aujourd'hui, il y a des choses que les enfants font, enfin que les petits-enfants font, que les enfants ne faisaient pas?
Oui, ils font. Ils font des choses que normalement, j'aurais pas supporté chez mon fils. Ouais.
Par exemple?
Taper du pied, répondre, pas dire bonjour, pas avoir envie de dire bonjour, voilà.
On va goûter. On t'a pris une part de flan, chérie.
Non.
Oh, qu'est-ce qu'il veut, là? Qu'est-ce que tu veux?
Un dessin animé.
Ah oui, un dessin animé, c'est vrai. Eh ben, d'abord, on va goûter, puis on verra après.
Hein? Alors, pour les parents, on imagine évidemment, enfin, on sait, la naissance, c'est un truc bouleversant, mais
Quand vous apprenez la naissance d'un petit enfant, qu'est-ce qui se passe?
On pleure. On pleure, on boit, on danse, ouais. On saute. Ah bah oui, le premier, nous, on était...
Le premier, c'était avec la fête de la musique, ouais. La fête des voisins, la fête de la musique en même temps. Quand on a appris qu'il était né, on a bu, on a dansé toute la nuit.
On a chanté. Mais ouais. C'était le premier et on avait 15 ans de moins. Donc 15 ans après, c'est plus le premier et on a 15 ans de plus.
Ouais, mais on boit plus pareil, on danse plus pareil.
On peut boire de la même façon, mais on danse un petit peu moins vite, on va dire. Mais le plaisir, la joie est toujours la même, forcément. On se dit toujours, oh, celui-là, je ne vais pas pouvoir l'aimer autant que les autres, ce n'est pas possible. Et puis on se rend compte que même s'il y en avait 10, il y a toujours autant d'amour à donner, de la même façon, et voilà.
Tous les instants, quoi.
J'arrive. Mamie, j'ai fini, il dit.
Il y a un petit caca, là, pour mamie. Oh là là, c'est un bon caca, ça.
Tu l'as fait pour quoi?
Tu l'as fait pour moi.
Bah, le caca, c'est un cadeau. Hein. Caca, cadeau.
Il faut l'accepter en tant que grand-mère.
Ah bah voilà. Hein.
On a moins de contraintes, finalement. On n'a pas à les éduquer. On n'a pas à les élever. On est juste là pour leur faire plaisir et pour se faire plaisir. Donc, moi, quand je viens là, mon plaisir, c'est de les voir. Maintenant, il n'y a que ça qui me plaît vraiment. J'aime bien aller voir une expo, tout ça, mais à choisir, moi, je ne les vois pas toutes les 5 minutes. Donc, c'est vrai qu'ils sont privilégiés par rapport à tout le reste. Voilà. C'est mes amours. C'est ma vie. C'est tout. Voilà.
Reportage signé Thomas Chauvineau.
Voilà, deux mamies pour le prix d'une, hein, mamie Annie et mamie Martine.
Commentaire autour de la table, Patrick Avran, on entend dans ce reportage que ces deux grands-mères laissent faire beaucoup de choses à leurs petits-enfants. C'est les petits-enfants qui n'ont pas le droit de faire certaines choses chez leurs parents.
C'est pas simplement qu'elles laissent faire. Les grands-parents, ils ont fait le boulot. C'est-à-dire qu'ils ont élevé les parents. Et qu'a priori, c'est aux parents d'élever leurs enfants. C'est-à-dire qu'elles expliquent très bien, cette grand-mère. C'est pas elle qui est en charge de l'éducation. Donc, on peut dire que quand le travail est fait, on peut laisser un peu aller les choses. Ça veut pas dire pour autant qu'on va contre. C'est là où il faut prendre garde. Parfois, il y a des grands-parents qui disent, et là, c'est sans doute pas la meilleure des choses à faire, tes parents ont tort de te faire comme ça, de faire ça. Le problème n'est pas là. Les parents élèvent leurs enfants et les grands-parents, eh bien, ils sont un peu plus souples parce que c'est pas eux que revient ça. C'est pas eux d'expliquer comment on fait pour se tenir à table ou pour aller se coucher.
Serge Guérin, les grands-parents ne doivent pas s'impliquer dans les questions strictement éducatives. Ça permet d'éviter les conflits intergénérationnels.
Alors c'est vrai qu'il y a toujours un risque de conflit de légitimité ou de conflit d'autorité. Si je dis quelque chose qui est inverse de tes parents, on rentre dans quelque chose qui est un peu compliqué. En revanche, quand mes petits-enfants sont chez moi, quand tu es chez moi, tu respectes aussi mes règles. C'est-à-dire que peut-être qu'à la maison, tu manges avec tes doigts, mais chez mamie, tu manges avec une fourchette. C'est-à-dire qu'il y a aussi, je crois que c'est aussi important de dire, on n'a pas, je ne juge pas, je ne dis pas que mes règles sont meilleures, mais je dis que quand tu es à la maison, tu fais un petit peu attention, telle ou telle manière. Oui, mais chez maman, je fais comme ça. Bah non. Et ça ne veut pas dire que maman fait pas bien. C'est-à-dire que simplement, nous ici, c'est pas tout à fait pareil. Donc je crois que c'est aussi important de mettre comme ça un petit peu un cadre, de la même manière que quand on va chez des gens. Eh bien, on respecte les règles de chez les gens. Quand on va dans un nouveau pays, on respecte les règles de ce pays. Si on était plus d'ailleurs dans ces logiques-là, on vivrait d'ailleurs mieux ensemble. C'est-à-dire qu'affirmer un certain nombre de règles, c'est pas se dédire, c'est pas être en opposition avec les parents, simplement dire, voilà, il peut y avoir des règles différentes selon les endroits où on est. Ce que je trouvais aussi très intéressant, c'est ces dames qui disent, finalement, c'est ma vie. C'est bien, mais ma vie de grand-parent, c'est pas seulement d'être grand-parent. J'ai le droit aussi d'avoir ma propre vie. J'ai le droit d'avoir envie d'aller voir des expos. J'ai le droit même de dire à certains moments, écoute là, si vraiment il faut, bien sûr je serai là pour les petits-enfants, mais ça m'arrangerait de faire autrement parce que j'ai aussi ma propre vie. Je trouve que c'est important aussi par rapport à cet excellent reportage de Thomas Chauvineau. En plus, elles sont magnifiques ces deux personnes. Hein, on sent tout cet amour. Mais je crois que c'est important aussi de dire, j'ai le droit de conserver ma propre vie de femme au-delà de mes petits-enfants.
Thomas Chauvinot.
Il y a eu une mode à un moment, c'était les grands-parents qui se faisaient appeler les chics. Ouf, chic, ils arrivent, mais ouf, ils s'en vont aussi. Une fois qu'on les a gardés un peu trop longtemps, on est content de les voir partir.
Patrick Avram.
Les grands-parents, c'est comme les parents. C'est-à-dire que les parents, ils ont une vie. Ils ne sont pas uniquement père et mère. Ils ont aussi leur vie. Les grands-parents, c'est la même chose. Ce que je dirais simplement, moi, je dirais que c'est plutôt l'inverse. C'est chez les parents qu'on apprend à manger avec la fourchette et que les grands-parents, ils ont le droit d'autoriser. Bon, je suis ta grand-mère, va, tu peux manger un peu avec les doigts, mais enfin, tu le diras pas à tes parents.
Bonjour Monique Desmet.
Oui, bonjour.
Bonjour, vous êtes psychologue, médiatrice intergénérationnelle au sein de l'école des grands-parents européens. C'est quoi l'école des grands-parents européens ?
Alors, l'école des grands-parents européens, c'est une association qui a été créée en 1994 par une femme médecin, Madame Fuchs, et qui a pour objectif d'étudier la place, justement, et le rôle des grands-parents, à la fois dans la famille et dans la société. Ça aussi, cet objectif d'écouter et de soutenir les grands-parents qui sont en difficulté parce qu'en conflit, en grande tension avec leurs parents, donc parfois n'ayant plus d'accès à leurs petits-enfants, ce qui est très très douloureux. Et comme le thème est la transmission, effectivement, une des souffrances, c'est ne pas pouvoir transmettre ce qu'ils aimeraient transmettre, à la fois leurs valeurs, à la fois peut-être aussi une aide de solidarité matérielle, etc., à leurs petits-enfants.
Et oui, les grands-parents sont souvent victimes, les grands-parents sont souvent les victimes collatérales des divorces qui se passent mal.
Oui, souvent les parents se séparent, ce qui se passe c'est que effectivement les grands-parents ils s'aperçoivent que les liens s'effilochent en quelque sorte, s'éloignent, notamment s'il s'agit de grands-parents paternels, ils ont du mal à maintenir le lien avec les petits-enfants parce que même s'ils ne sont pas dans le conflit, c'est important qu'ils ne soient pas impliqués dans le conflit, les choses font qu'il y a tellement de tensions qu'on les oublie en quelque sorte. Et on s'aperçoit aussi, nous, à l'école des grands-parents, que ces grands-parents, ils sont aussi touchés dans la séparation de leurs enfants avec leur conjoint, en quelque sorte. Et parfois, ils s'identifient aux parents qui souffrent. Et du coup, ils diabolisent l'autre, l'autre qui est parti, l'autre qui s'est séparé. Et notre travail consiste un peu à les aider à accepter l'autre qui est différent, l'autre qui est parti, et à maintenir surtout chez les petits-enfants une sécurité affective. À savoir, même si les parents se sont séparés, et les deux parents sont quand même toujours dans cette filiation et auront toujours de l'affection pour leurs enfants.
Merci beaucoup.
Et leur dire qu'ils ne sont pas, coupables de cette séparation. Et là, je pense que les grands-parents ont un très très grand rôle à jouer dans ces cas-là, en restant dans une position de tiers, en respectant aussi l'ex-conjoint. Parfois aussi en acceptant le nouveau conjoint, parce qu'après les séparations, il y a aussi parfois une recomposition.
Voilà. Merci beaucoup Monique Desmet, psychologue, médiatrice intergénérationnelle au sein de l'école des grands-parents européens. Patrick Avram, en cas de conflit entre un enfant et ses parents, les grands-parents doivent se positionner dans une posture d'observateur à la fois bienveillant et discret.
Ils sont difficilement observateurs parce que, uniquement observateurs parce qu'ils sont quand même partie prenante. Leur position, elle
est partie prenante, mais il ne faut pas qu'ils soient de parti pris.
Ouais, c'est ça. Leur position, c'est effectivement vous le dites très bien, c'est-à-dire de ne pas intervenir directement. C'est plutôt d'être dans une place d'écoute. De comprendre ce qui se passe, et en sachant qu'il y a des choses qui se règlent entre les parents et les enfants, duquel les grands-parents n'ont pas forcément leur rôle à jouer, sinon en restant à leur place de grands-parents, et c'est-à-dire de pouvoir accueillir leurs petits-enfants comme leurs enfants.
Vous assistez dans votre cabinet de psychanalyste parfois à des rivalités entre parents et grands-parents?
Sur un divan de psychanalyste, il n'est question que de rivalité.
Effectivement.
Ça ne veut pas dire pour autant que c'est l'essentiel, mais ce qui se joue, c'est à deux niveaux. Il y a tout ce qui est de l'ordre de la rivalité dans le fantasme. Ce que l'on voit parfois, effectivement, parce que je suis aussi un psychanalyste qui reçoit des enfants, c'est que à ce moment-là, parfois, il est important de pouvoir démêler ce qui appartient du fantasme de ce qui est de la réalité.
Bonjour Elisa.
Bonjour.
Bienvenue dans l'émission. Vous vous appelez de Paris, dans le 11e arrondissement. Que vous ont transmis vos grands-parents ?
Alors, en plus de tout ce que vous avez déjà évoqué, mes grands-parents m'ont transmis en fait une langue régionale espagnole.
Laquelle ?
Le valencien.
Le valencien.
voilà, qui est une langue parlée dans le pays de Valence. Et en fait, presque contre mes propres parents, puisque j'étais gardée par mes grands-parents, et mes parents avaient demandé à mes parents de me parler uniquement en espagnol, en castillan, pour pas que je mélange tout. Sauf que entre eux, mes grands-parents parlaient valencien, et puis j'ai fini par leur répondre aussi en valencien, et du coup, bah voilà, j'ai appris le valencien avec mes grands-parents, et tout ce que ça implique, c'est-à-dire toute la culture...
Les chansons,
qui va avec,
les comptines...
Exactement, ouais, toutes les chansons, les comptines...
Vous avez une petite comptine en valencien, même si la liaison est pas très bonne, une comptine en valencien, vous en avez une en tête?
Bah, c'est surtout des comptines, oui, pour les enfants, pour les endormir notamment, et que j'essaie moi maintenant de transmettre à mes propres enfants. Alors je chante très très mal, hein, si vous voulez.
On coupera, si ça vous chantez vraiment mal, on coupera la liaison.
Oui. c'est pour endormir un enfant, donc ça fait un el meu chic, general, general, arzobispo, obispo, capitán. Capitaine, voilà.
Bon, mais merci beaucoup, Elisa.
On s'est tous endormis.
On s'est tous endormis. Pour aller dans votre sens, un mail de Sophie qui nous dit « J'ai un lien très fort avec mes grands-parents maternels espagnols. Ce sont eux qui m'ont transmis l'amour pour l'Espagne et m'ont appris cette langue. Aujourd'hui, je suis professeur d'espagnol et c'est à eux que je dois cet enracinement et ce lien si profond qui m'unit à l'Espagne. » Merci beaucoup, Elisa, de nous avoir appelé. Bonjour, Sabrina.
Oui, bonjour.
Vous appelez de Mérignac. Bienvenue.
Merci. Moi, je voulais juste témoigner sur le fait que ma grand-mère, qui a 84 ans, est une aide vraiment précieuse au quotidien, puisque elle n'hésite pas à faire du covoiturage de la Bretagne à Bordeaux à 84 ans
pas
pour
mal.
Venir m'aider à garder mes enfants, donc ses petits-enfants, donc c'est l'arrière-grand-mère. Et d'ailleurs, dans quelques semaines, elle déménage sur Bordeaux pour sa première fois de sa vie à 84 ans, afin d'être
près
proche de moi, sa petite fille et ses arrière-petits-enfants.
Qu'est-ce qu'elle vous a transmis, votre grand-mère ?
Indéniablement, son amour inconditionnel. Un amour, mais vraiment incroyable.
Serge Guérin.
Et sa tendresse, son esprit joueur encore à 84 ans.
Esprit joueur qui se traduit comment, par exemple ?
Elle peut jouer des heures avec mes enfants de 2 ans et 7 ans, mais jouer à la marelle, jouer encore un peu à l'élastique, elle peut faire du vélo, elle est encore en très bonne santé, et voilà.
Patrick Avran.
Juste une chose, ce que l'on voit, c'est un exemple tout à fait pertinent, c'est que les grands-mères d'avant, ce sont maintenant les arrière-grands-mères. C'est-à-dire que cette femme, elle a une arrière-grand-mère qui va être celle qui était pour nous les grands-mères d'avant.
Merci beaucoup Sabrina de nous avoir appelé depuis Mérignac, 01 45 24 7000. Vous pouvez continuer à témoigner.
Captains of our own soul.
take control and I was like take all, take all. Lana Del Rey avec The Weeknd.
Ali Ribi, grand bien vous fasse. Sur France Inter.
Leur grand Besançon. Et si on terminait l'émission en évoquant un tableau de Frida Kahlo, mes grands-parents, mes parents et moi.
Et oui, Ali, mes grands-parents, mes parents et moi, c'est magnifique, ça en impose. C'est une peinture de Frida Kahlo. Vous savez, cette artiste mexicaine, féministe, révolutionnaire, connue pour ses compositions étonnantes, ses couronnes de fleurs, son mono-sourcil, oui. Et qui, au Mexique, figure sur les billets de 500 pesos. Une huile sur toile peinte en 1936, une sorte d'autoportrait en forme d'arbre généalogique, un tableau qui raconte l'histoire de ses origines. En arrière-plan, un paysage mexicain, le ciel bleu-azur, la terre chaude et brune, sous nos yeux, l'arbre généalogique de la petite Frida. Je dis petite, et c'est exprès. Frida, au centre de la toile, doit avoir dans les 3-4 ans, pas plus. Elle est toute nue. Elle tient de sa main droite un ruban rouge qui relie tous les membres de sa famille. Au-dessus d'elle, ses parents en tenue de mariée, et un cran au-dessus, ses grands-parents, enfin surtout leur visage, qui flottent sur deux petits nuages, tout là-haut dans le ciel bleu. Ses grands-parents, Ali, c'est ce qui permet à Frida de faire la part des choses. En tout cas, il préside à la répartition des origines. À gauche, il y a la branche mexicaine, ses grands-parents maternels. Au-dessus, évidemment, bah, je vous le donne en mille. De quoi ? Bah, on est au Mexique. Eh bah, ben, de cactus, hein ? De cactus. Et à droite, la branche allemande, du côté de son père, au-dessus de l'océan, parce que l'Allemagne, c'est loin, tout là-bas, du côté de l'Ancien Monde. Frida Kahlo remonte le fil de ses origines avec des couleurs vives, tranchées. Les proportions sont étonnantes. Souvenirs d'enfance, parents, grands-parents, tout ça se raconte à la manière de Frida, façon réalité magique.
Mes grands-parents, mes parents et moi, un tableau de Frida Kahlo qu'on peut retrouver sur un moteur de recherche.
Et puis à New York.
J'ai pas le temps d'aller à New York, là, vous voyez, leur grand Besançon. Merci beaucoup Patrick Avran, Les grands-parents, une histoire de famille est publiée au PUF. Merci Serge Guérin, La guerre des générations est publiée chez Calman Lévy. J'avais une dernière question, mais j'ai pas le temps de vous la poser sur la transmission, le passage de témoins entre les vivants et les morts. Mais bon, ce sera pour une autre émission.
Hein. Passage de transmission entre vivants.
Merci beaucoup. Demain, on s'intéresse au bricolage. Nous attendons toutes vos questions. Si vous êtes passionné de bricolage, grand bien vous fasse. À radiofrance.com, à la technique ce matin, Loïc Frapsos et Vincent Godard. La programmation musicale était signée Muriel Pérez.